Jacinthe Varel est avec nous en remplacement de Denis Gravel le vendredi. C'est toujours un plaisir de l'accueillir. Surtout quand il fait soleil, c'est le fun. Tu nous amènes le soleil, Jacinthe. Content de te voir. T'as passé une belle semaine?
Très belle semaine.
Oui, bon. C'était la fête de ta fille hier.
Oui, 20 ans.
Tabard.
20 ans, ma plus vieille.
20 ans. C'est ton bâton de vieillesse.
Ben, elle avait déjà coupé le cordon en partant en Europe l'été dernier, seule.
Ouais.
ça a été le premier grand coup. Quand ton enfant part à l'autre bout du monde, seul, tu te dis tout peut arriver. J'espère que rien de grave va arriver, mais c'est le premier coup de ciseau du cordon ombilical, je trouve.
Moi, j'appelle encore mes gars, mes bébés, puis ils me disent « Papa, on n'est plus des bébés, là. Moi, je suis préadolescent. Mon frère, il s'est rendu un adolescent. » Je dis « Ouais, mais même quand je vais avoir 90 ans, je vais vous appeler encore mes bébés. »
Ben oui. Ben
ça
oui.
va toujours être nos enfants.
Ben
fait
oui.
que c'est ça. T'es-tu une mère protectrice, toi?
Beaucoup, beaucoup.
Ah oui, hein?
Puis l'écart d'expérience fait que, de toute façon, on note toujours les dangers qui les guettent, mais aussi le niveau de maturité, parce qu'on va toujours garder ce niveau de maturité, cet écart-là, parce que même s'ils deviennent adultes, ben nous, on devient adultes avec de l'expérience. Donc, ça fait que cet écart-là fait qu'on est toujours très protecteur, parce qu'on se dit, ben oui, mais t'as 20 ans, t'es grand, t'es un adulte. Oui, au sens de la loi, t'es un adulte, mais je sais encore que ton cerveau peut encore maturer beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oui, mais il faut faire attention de ne pas être déphasé. Tu sais, moi, quand mon fils, il me dit, papa, t'as-tu la ref, là?
Hein? La ref, ouais.
On l'a pas, la ref. On l'a jamais, la ref.
6-7.
La quoi? Tu sais, fait que, ce que je vivais... Quand lui, à 12 ans, il vit pas la même chose que moi quand il avait 12 ans.
Non, du tout.
C'est un autre,
monde. Univers.
Fait que oui, être là pour les accompagner, mais un moment donné, je vais être obligé de me tasser.
T'as pas le choix, gars. Moi, mon plus vieux, ça, on va étudier à Chicoutimi pour jouer au football l'année prochaine.
Aïe, aïe.
Fait que t'as pas le choix de dire let's go.
Pas si loin, tu vas pouvoir y aller souvent.
Ouais, puis en même temps, il a bien fait son plan, il a bien planifié son budget, il a fait tout ce qu'il avait à faire, il a sa place en résidence. Toutes les étapes ont été fait, puis il le fait avec beaucoup de sérieux. Fait qu'on dit, bon, ben, vas-y, mon petit loup, là. Tu peux plus du seul de la mère de le laisser partir que le père, on dirait. C'est normal.
Je sais ça. Moi, j'ai dit à mes gars que le cordon ombilical sera jamais coupé, mais eux le souhaitent le couper à chaque fin de semaine. Hey, Simon-Jolin Barrette, on parle de dossiers provinciaux. Simon-Jolin Barrette qui revient un peu sur ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire que dans son projet de constitution, il voulait mettre le droit à l'avortement. Puis curieusement, tu sais, Simon-Jolin Barrette, c'est un avocat de formation. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui, en droit, est assez ferré, pas mal plus que moi. Et en consultant des gens qui sont ferrés en droit, dont Maître Marc Bellemare, je lui posais la question. C'est une bonne idée ou pas de mettre ça dans la Constitution québécoise? Puis Maître Bellemare m'avait dit, à partir du moment où tu mets ça dans la Constitution, ça peut être challengé. Le barreau du Québec avait dit, à partir du moment où vous mettez ça dans la Constitution, ça va pouvoir être challengé et même éventuellement changé par les gouvernements qui vont se suivre par la suite. Simon-Jolin Barrette était où?
Ben, il était dans l'actualité. On a parlé du droit à l'avortement notamment avec ce qui s'est passé dans les dernières années aux États-Unis, là où on a renversé finalement l'autorité en matière de droit à l'avortement aux États-Unis. On a redonné le pouvoir aux États plutôt que d'avoir le pouvoir au niveau fédéral. Et ça a fait peur. La montée de la droite, qu'on appelle parfois l'extrême droite, a aussi amené cette question-là. La montée du conservatisme, on s'est mis à avoir peur ou à entendre cette crainte-là que les droits des femmes reculent en matière d'avortement. Et c'est dans cet objectif de protéger ça qu'il a... Tu sais, ses intentions étaient totalement bonnes et totalement positives. C'était pour protéger l'avortement. Bon, maintenant, il y a plusieurs personnes qui ont dit non, en le mettant dans une constitution, ça fragilise ce droit-là.
Bien, parce que c'est avec Morgan Taylor, le dossier Morgan Taylor, on avait décriminalisé l'avortement, ce qui fait en sorte qu'à la grandeur du Canada, c'était correct. Mais c'était pas inscrit tel quel dans une loi. Puis là, ça, c'est l'article 29 de son projet de loi qui stipulait « L'État protège la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. » À partir du moment où il met ça là, ça peut être challengé. Je comprends pas pourquoi il s'entêtait. La semaine dernière, il disait qu'il était souverain à prendre cette décision-là. Moi, là, quand t'es un homme puis tu prends des décisions pour la majorité des femmes au Québec, tu devrais te garder une petite gêne.
Oui, bien, de toute façon, là, il a annoncé qu'il reculait. Il reste que je pense que ses intentions étaient bonnes parce qu'on parle souvent du fameux droit à l'avortement, mais on l'a pas, le droit. Tu viens de le dire, c'est décriminalisé, mais est-ce que c'est un droit? C'est pas inscrit nulle part que c'est un droit. Et là, il voulait l'inscrire que c'était un droit. Moi, je pense que l'intention était noble, l'intention mérite d'être soulignée. Maintenant, ça fait peur à plusieurs personnes. Je suis pas convaincue que dans quelques années, on n'en reparlera pas de ça, de cette idée que c'est inscrit nulle part non plus que c'est un droit. Donc, c'était pour inscrire à quelque part que le droit existe, parce qu'on en a parlé dans les dernières années. Hein. C'est pas un droit, c'est plutôt basé sur la jurisprudence, cet accès à l'avortement. Bon, c'est basé sur la jurisprudence, mais c'est pas inscrit comme un droit. Il fait bien d'écouter la population. En ce moment, le gouvernement a le vent dans la face.
Je te pose la question, Jacinthe Varel, t'es ferré côté politique, tu connais énormément de politiciens. Est-ce qu'il a écouté la population ou il voit une Christine Fréchette en montée puis il se dit « ça se peut que ça me mette dans le trouble si je mets ça là ».
Premièrement, il y a deux candidats à la chefferie de la Coalition Avenir Québec et les deux se montraient prudents sur la question. Les deux, lorsqu'ils se faisaient questionner là-dessus, disaient il faut être à l'écoute de la population.
Parce que Fréchette a été très clair hier, là. Moi, j'enlève ça. Là.
Exactement. Oui, absolument. Donc, moi, j'ai l'impression que Simon-Jean Barrette, c'est un gars d'équipe, c'est un gars de parti. C'est important pour lui de ne pas nuire à son parti et il aurait nui à son parti s'il n'avait pas reculé là-dessus. Donc, je ne pense pas qu'il le fait pour protéger sa carrière ou pour protéger son siège dans un éventuel nouveau conseil des ministres sous Christine Fréchette ou sous Bernard Drainville. Je pense qu'il le fait vraiment par esprit de protéger son parti. Le parti était tiré vers le bas avec cette question, notamment. Il n'y avait rien de positif qui sortait de ça. Là, quand toutes les femmes se regroupent, quand toutes les organisations de femmes et qu'il y a des avocats qui se prononcent contre ça, t'as beau avoir eu les meilleures intentions du monde. Et moi, je pense qu'il croit encore qu'il y aurait eu des effets bénéfiques à ça parce que ce que les avocats mentionnent pas, là, c'est que va donc ouvrir une constitution puis changer la constitution. Nommez-moi des pays qui ouvrent leur constitution régulièrement pour aller changer ce qu'il y a dedans. Là. T'sais, fait que, oui, en inscrivant ce droit-là dans une loi, on pourrait jouer dans cette loi-là et retirer le... Mais en même temps, c'était pas dans n'importe quelle loi qu'on écrivait ce droit-là, c'était dans une constitution. Et habituellement, une constitution, on rouvre pas ça ni à chaque année, ni à chaque 5 ans, ni à chaque 10 ans. Ça prend du matériel pour ouvrir une constitution. Alors, il y aurait eu quand même, je pense, une forme de protection auquel le ministre de la Justice actuellement, Simon-Jeanin Barrette, croit toujours. Mais pour faire passer son parti avant sa vision à lui, ben, il s'est retiré de cet article 29 de la Constitution.
Avec ce qui se passe à la CAQ présentement, est-ce que la CAQ est légitime pour amener au bout le projet de Constitution comme de faire un budget? Parce que François Legault se réunit avec Éric Girard, là. Je trouve ça particulier. Là, le 12 avril, il n'est plus là, François Legault.
Oui, absolument. Bien, le budget, ce serait vraiment très populiste de la part de la Coalition Avenir Québec. Ce serait vraiment prendre les électeurs pour des naïfs, des grands naïfs. Parce que le budget, il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis des mois au ministère des Finances. Alors que de dire non, on va le laisser présenter par le nouveau chef, ça serait justement de prendre la population un peu pour des gens bêtes qui ne connaissent pas vraiment comment ça fonctionne. Le budget, il est travaillé depuis longtemps au ministère des Finances. Est-ce qu'on va le laisser présenter par un nouveau chef qui pourrait faire semblant d'ajouter un peu sa touche, mais il reste que c'est un gros document, c'est du stock, là. Alors, ça a déjà été tout négocié, tout travaillé, tout validé, contre-validé aussi avec les fonctionnaires du ministère.
Mais ça coince-tu les futurs chefs, que ce soit Christine Fréchette ou Bernard Drainville, parce que les deux, présentement, font campagne pour tenter de se distancer le plus possible de François Legault, mais il va arriver avec le budget de François Legault et d'Éric Girard.
C'est peut-être moi qui ai une vision plutôt noire de la politique, là, mais comme on est dans la dernière année électorale, j'ai l'impression que ça va être le plus beau des budgets. Là. Aussi. On va avoir des super de belles surprises parce que la CAQ a travaillé extrêmement fort dans les derniers mois. Là.
Est-ce que tu as déjà été conseiller politique?
J'ai jamais été rémunéré.
Je vais pas péter votre bulle, les gars, mais ce budget-là sera déficitaire.
Oui, et quand il va être déficitaire, budget... il va être plus beau.
Ah ouais, ben oui.
Parce qu'ils ont travaillé fort. C'est comme ça qu'ils vont le vendre, Jacinthère.
Oui, ils vont dire, vous voyez, dans notre planification, là, je me souviens plus du chiffre exact, là, mais supposons que pour le retour à l'équilibre budgétaire sur 5 ans, c'était 9 milliards de déficit. Mais ben là, on va être à 7.
Chérie, pas besoin de faire faillite. On peut faire juste une proposition au consommateur.
Exactement. Hey, là, on va être à 7. Oui, Jacinthère, on va être à 7. Hey, 2 milliards de moins. Le travail qu'on a fait rigoureux. Les fonctionnaires qu'on a envoyés à la retraite.
Oui, c'est ça. Non, mais quand on est rendu là, à faire des propositions aux créanciers, presque, tu sais, je le transpose dans un budget familial, mais tu sais, l'endettement est incontrôlé, structurel. Le déficit se creuse d'une année à l'autre. C'est loin, ça sera loin d'être un beau budget. Justement, ça enlève toute marge de manœuvre de toute façon. Tu sais, de dire, on enlève. François Legault enlève la marge de manœuvre à une éventuelle Christine Fréchette ou Bernard Drainville. Quelle marge de manœuvre? Ah, t'es endetté, là, plus que jusqu'au cou. Là, ça dépasse au-dessus de la tête. Donc, quelle marge de manœuvre? À part faire des semblants de cadeaux à gauche, à droite, grenailler un peu à gauche, à droite pour faire semblant qu'on contente tout le monde, il reste qu'on va tout faire ça sur la dette, sur un déficit qu'on creuse. Franchement, il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre.
Je te le garantis qu'on va nous le vendre comme étant un travail incroyable de la part des gens de la Coalition Avenir Québec. Je suis persuadé
il va avoir
que ça
la
va
belle,
être la première
Il va avoir la belle photo.
Oui,
avec le petit livre.
Exact.
Il va avoir l'ovation à l'Assemblée nationale.
On annonce des déficits, mais ça va, ils vont faire ça avec le sourire. Hey, cette semaine, on a reçu Bernard Drainville. Je réécoute jamais mes entrevues, là, puis je regarde ce qui se dit par rapport à l'entrevue que j'ai faite. Mais je vais juste te parler de moi, de mon point de vue personnel sur Bernard Drainville. Il semble désemparé. Il semble ne pas être en plein contrôle de la situation. Je pense qu'il s'attendait à avoir beaucoup plus d'appui de la part de la Coalition Avenir Québec, des membres de la Coalition Avenir Québec. Puis malheureusement, ces appuis-là ne sont pas venus. Il semblait penser que les stations de radio de Québec allaient le privilégier, alors que c'est pas du tout le cas. On les considère les deux sur le même palier d'égalité. Moi, j'avais un homme qui était désemparé devant moi puis qui était incapable de donner des questions, des réponses précises. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bernard Drainville? Il est fessé.
J'ai écouté, moi, l'entrevue que vous avez fait avec Bernard Drainville cette semaine. J'ai pas la même perception que toi. C'est sûr que tu étais en studio avec lui. Mm-hmm. Mais moi, comme auditrice...
T'as peut-être la même perception que moi. Moi, je l'ai trouvé « fighter ».
Ben oui, absolument. Vous avez pas été complaisant avec lui, disons-le comme ça.
Chapeau à Yannick qui a fait ça de façon impeccable.
Absolument.
Je t'annonce que le jour où tu deviens politicienne, même si je t'apprécie grandement,
tu vas me rentrer dedans, Yannick.
Non, ça va être du vouvoiement.
Ben oui.
Puis il m'a posé les questions que les auditeurs aimeraient que je te pose. T'sais. Puis c'est ça, faire sa job.
Ouais.
Puis il n'y a rien de pire que des stations de radio qui vous disent pour qui voter.
Ouais.
Là, c'est prendre les électeurs pour des imbéciles. J'embarquerai jamais là-dedans.
Ben...
Je vais poser les mêmes questions. Bernard Drainville que je vais poser à Christine Fréchette. Est-ce qu'il y en a que j'apprécie plus au personnel? Bien sûr, je suis un être humain, mais en ondes, des fois, faut pas faire la différence entre quelqu'un qu'on connaît bien puis quelqu'un qui est rendu un politicien.
Mais justement, pour pas dire aux électeurs pour qui voter, puis pour être juste là-dedans, moi, je dirais que Bernard Drainville a pas les membres de la Coalition Avenir Québec contre lui, ou il n'y a pas autant de membres contre lui. Il n'y a pas l'establishment du parti. Et ça, c'est une distinction super importante à faire. C'est pas... Les membres, là, c'est les auditeurs qui nous écoutent. Ça peut être toi, ça peut être moi. On va chercher une carte de membre pour devenir membre.
Même dans les sondages, à l'intérieur même de la Coalition Avenir Québec, ils scorent pas.
Ils scorent pas parce que... Et moi, je pense il y a peut-être une question de personnalité, il y a peut-être une question de son histoire. On a plus de matériel pour le juger on a de matériel pour juger Christine Fréchette.
Bon,
mais il n'est pas endossé par l'establishment du parti. Il n'est pas non plus privilégié par les médias en général, je dirais. Christine Fréchette bénéficie d'une belle couverture médiatique. Et ça fait toute la différence dans la perception du monde. Alors moi, je continue de dire, écoutez ce qu'ils ont à dire, ces deux candidats-là, à travers vos oreilles à vous, parce que il y a quand même un biais, moi je le vois, il y a un biais Christine Fréchette dans l'establishment du parti et aussi dans les médias, probablement parce qu'on a moins de matériel pour la juger, donc c'est plus difficile de la prendre en défaut.
C'est ça, mais moi ce qu'on me dit d'elle, c'est que c'est une grande travaillante. Bernard Drainville, c'est un gros travaillant aussi. Ce qu'on me dit d'elle, c'est qu'elle est extrêmement rigoureuse. Dans le cas de Bernard Drainville, je n'ai pas cette perception-là, puis honnêtement, il n'y a personne qui m'a dit que Bernard Drainville n'y arrivait jamais préparé dans ses émissions. Donc, je peux présumer qu'il est rigoureux. Mais le fait que Christine Fréchette prenne la peine d'appeler chaque individu qui est touché par le dossier du troisième lien, moi, ça l'a attiré tout mon respect. Puis quand j'ai posé cette question-là à Bernard Drinville, on a reparlé aux gens à Lévis, on a parlé aux gens à Québec, on a fait des consultations. C'est tout le temps... Il y avait de l'air tout le temps à bout.
Ouais.
Christine Fréchette a pris la peine d'appeler tout le monde, puis on nous a spécifié que c'était la première fois... Puis Fred Boisvert, à qui on va parler tantôt, nous l'avait mentionné aussi. La dame de la Chambre des commerces et d'industrie de Lévis a dit la même chose.
J'y reparlais hier à Marie-Josée Morancy.
C'était la première fois que quelqu'un qui était impliqué dans le dossier du troisième lien les appelait, eux, personnellement, pour avoir leur opinion.
Oui, mais ça, n'oubliez pas, là, les Chambres de commerce d'industrie de Québec et les Chambres de commerce de Lévis, c'est une organisation qui représente des entreprises membres de ces chambres de commerce-là. Oui. Ça ne représente pas l'ensemble des électeurs, ça ne représente pas l'ensemble des citoyens. Fait que c'est un point de vue parmi tant d'autres. Ça ne veut pas dire que Bernard Drinville n'est pas apprécié des électeurs et n'est pas branché sur le terrain. Monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, à l'épicerie, à boucherie, au garage du coin, au salon de coiffure, il y a ces gens-là aussi qui comptent là-dedans.
Mais ça se
reflèterait
dans les sondages, Chassin?
Peut-être, absolument, peut-être. Peut-être, mais tu sais, le pouvoir d'influencer l'opinion des gens à travers ce qu'on fait comme travail est énorme. Et justement, est-ce qu'on a quelqu'un d'orienté beaucoup sur les messages politiques et les apparences ou quelqu'un qui est très branché terrain, ça fait toute une différence aussi. On l'a vu, là, on peut reculer dans le temps.
Moi,
là,
je te parle en tant qu'électeur, moi, là. Ouais. Okay? Je me souviens de Bernard Drinville quand il était journaliste. C'était tout un journaliste. Mm-hmm. C'était tout un analyste, mais il était très à gauche. Mm-hmm. Je me souviens de Bernard Drinville quand il était à radio. C'était un gars qui était très à gauche. D'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle il était embauché. Il s'exprimait bien, puis il était à gauche, puis c'était un homme brillant. Il a toujours travaillé pour des partis qui étaient à gauche. Et là, tout d'un coup, il arrive à la CAQ, le chef part, il veut se présenter comme chef, il se présente comme un gars de centre-droit.
Ouais.
Il y a de la misère avec ça.
Ah, oh, ben là, le centre-droit, de toute façon, il y a le dos large, là. T'sais, tout le monde se dit de centre-droit. Tu te promènes, puis tout le monde dit « Ah, moi, je suis de centre-droit. » Sur le plan économique, tout le monde est de centre-droit, de toute façon. Arrêtez-moi ça, là. La boussole électorale est un peu mélangée
ça
pour tout le monde.
Ça fait un an et demi que c'était à mode chez les politiciens de se dire centre-droit. Là.
Ça a commencé avec Alex Boissonneau.
Alex Boissonneau était rendu de centre-droit. Mais ça, c'est la fenêtre d'Overton qui se déplace en communication. C'est que là, à un moment donné... se dire de droite, c'est plus considéré comme SS, là, comme nazi. De droite économique, là, c'est rendu correct. Fait que la fenêtre, elle s'est déplacée. Puis là, tout le monde dit « Ouais, moi, je suis de centre-droit. » Jusqu'à temps qu'ils gouvernent, puis là, qu'ils deviennent de centre-gauche.
Jusqu'à temps que tu les challenges aussi sur des questions. C'est quoi pour toi le centre-droit? C'est quoi vraiment... c'est quoi pour toi être de droite? Puis là, c'est parler d'un budget équilibré. Mais parler d'un budget équilibré, je m'excuse, c'est de centre. Il y a une droite là-dedans, là. C'est un budget équilibré. Quand on entend des Christine Fréchette continuer de dire qu'il faut investir, il faut que le gouvernement investisse dans l'industrie de la batterie, par exemple. Un investissement, ça rapporte des dividendes, ça rapporte des profits, ça rapporte quelque chose. Le gouvernement n'investit pas, le gouvernement subventionne, puis il choisit les gagnants à la loterie des subventions.
Exactement.
Et souvent, ces gagnants-là, c'est des grosses multinationales, souvent avec des intérêts étrangers ou à 100% d'intérêts étrangers, des centres opérationnels, des centres décisionnels délocalisés qui viennent s'implanter ici seulement pour extraire de la richesse et envoyer ça parmi des actionnaires, soit enregistrés à la Bourse de Londres ou dans des paradis fiscaux. On le voit beaucoup, beaucoup dans notre économie. Il faudrait décortiquer ça. Donc, tu sais, moi, quand j'entends des politiciens dire « on va investir dans tel type d'industrie », t'es même pas de centre-droit. Là,
pour m'en faire l'avocat du diable, quand j'ai interviewé Étienne-Alexandre Beauregard, qui est venu vendredi dernier aussi dans Marceau le matin, il me disait que Bernard Drinville, par exemple, il voyait une certaine droite dans ses propositions sur la laïcité.
Ouais.
Donc ça, il voyait ça. Donc il dit...
Mais c'est pas de la droite économique.
Mais c'est pas de la droite économique. C'est exactement ça, la différence qu'il
faisait.
La droite
économique, c'est ce qui a mené François Legault en 2017-2018 à arriver au pouvoir.
Ouais. Oui.
Puis après ça, une fois
mais
qu'il a pris le pouvoir...
Mais après ça, il n'a pas été de droite économique.
Mais on peut être de droite sociale aussi et avoir un petit mélange de tout ça.
Exactement.
Donc, être de droite, t'es-tu de droite économique, droite sociale ou les deux?
Moi, je suis boulevard centre 2-1.
Ah!
Oui.
C'est bien ça.
Oui.
Ça, c'est... Ah ben, il y a le mot centre dedans. C'est parfait.
Hein? Oui.
C'est parfait.
C'est beau.
On est de même. Des fois, on est un petit peu à droite. Des fois, on est un petit peu à gauche. L'important, c'est qu'on puisse s'entendre.